Imaginez la scène. C'est lundi matin. Vous vous levez en retard, les yeux encore dans le brouillard. Le réveil n'a pas sonné. En mettant trop vite les deux pieds dans la même jambe de votre pantalon, vous courez réveiller le grand qui s'agrippe tant qu'il peut à sa couette. Pendant ce temps, dans les toilettes, vous en entendez un autre qui vous crie qu'il n'y a plus de papier, que vous devez lui en ramener sans tarder. En passant, vous lancez le bibi du petit dernier en urgence. Dans la précipitation, vous avez mis une cuillère de trop, mais tant pis, vous espérez bien qu'il ne s'en rendra pas compte. Et puis enfin, vous arrivez à la salle de bain. Vous remettez d'abord la deuxième jambe de votre jean là où il faut, puis vous vous passez un coup d'eau fraîche sur le visage. Quand tout à coup, votre cœur s'emballe. Vos yeux ont été attirés par quelque chose sur votre épaule. Le grain de beauté que vous aviez là depuis toujours a triplé de volume pendant la nuit et sa forme est devenue pour le moins étrange. Malheur. Et si ceci ne présageait rien de bon? Toutes vos pensées alors viennent se focaliser sur ce petit bout de votre épaule. Votre cœur s'emballe, vos mains se crispent en y passant et repassant dessus, vos jambes flageolent et votre cerveau monte en ébullition en se demandant quoi faire. En fait, ce sont tous les membres de votre corps qui sont crispés à présent sur cette toute partie de vous-même, pourtant si anodine jusque-là. Et tout à coup, biberon et papier toilette deviennent vite très secondaires. Voici un exemple qui fait état d'une réalité qui est tellement vraie pour nous tous. Notre corps est un tout. Et chacune de ses différentes parties est vraiment préoccupée par les autres. Et vous devinez, je pense, où je veux en venir. Puisque Dieu a choisi de prendre cette image du corps pour parler de son Église qui lui est si précieuse, on l'a dit. C'est parce qu'il veut donc nous enseigner, entre autres, que nous qui en sommes membres de ce corps, nous sommes aussi appelés à nous préoccuper les uns les autres. Nous sommes appelés à nous mettre en souci les uns pour les autres. Et ce mot que j'utilise ici est volontairement très fort. C'est Paul qui l'emploie. Écoutons-le au cœur justement de son long développement sur le corps du Christ. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun de ses membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Ah, si nous pouvions vraiment nous saisir de ces paroles, quelle gloire rendrions-nous alors à Dieu ? Et je dis, si nous pouvions, parce que visiblement ce n'est pas une attitude qui va de soi, même entre chrétiens. Écoutez ce que Paul encore affirme à propos d'autres chrétiens donc. Il n'y a personne ici, en dehors de Timothée, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. J'aimerais nous inviter ce matin à faire résonner ce reproche dans nos cœurs et à nous poser honnêtement la question de savoir de quelle façon nous nous préoccupons les uns des autres. Oui, demandons-nous aujourd'hui quelle énergie nous consacrons et ce que nous faisons concrètement pour nos frères et sœurs dans la foi, au milieu de toutes nos propres affaires et occupations. Parce que de son côté, l'Écriture nous invite, quant à elle, à faire au moins deux choses à ce sujet. Et elle nous invite même à les faire sérieusement et avec consécration. C'est ce que je vous propose de détailler aujourd'hui, dans la poursuite de notre série « Les uns les autres ». Et j'espère vraiment que ce que nous allons voir pourra nous permettre de renouveler, si besoin bien sûr, notre souci les uns pour les autres. Nous découvrons notre premier appel dans la lettre aux Hébreux. Restons fermement attachés, nous est-il dit, à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance, et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Veillez les uns sur les autres. Voici la première façon dont nous allons pouvoir nous mettre en souci pour l'autre. Mais alors, veiller sur mon frère, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu me demande ici de veiller à son bon état de santé ou à son épanouissement personnel? Non, je ne crois pas. Non, ce sur quoi nous sommes invités à veiller, c'est plutôt sur l'état spirituel de celui qui est à côté de nous. C'est, comme dit le texte, sur sa pratique du bien et de l'amour. Mais cela, il faut bien le reconnaître. Ça nous gêne un peu quand même. Ça nous gêne, oui, parce qu'on n'a pas vraiment envie en général que les autres viennent fourrer leur nez dans nos affaires et dans la façon dont nous faisons le bien ou pas. Non, on n'a pas envie qu'on vienne nous demander « Mais au fait, où en es-tu actuellement dans ta relation avec Dieu, dans ta lecture de la parole et dans sa mise en pratique ?» Ou encore, mais au fait, où en es-tu actuellement de cette situation que tu vis qui n'est pas conforme à ce que voudrait Dieu? Ainsi de suite. Non, avouons-le, on n'aime pas trop ce genre de questions. Tout simplement parce qu'elles nous remettent un peu trop en question, justement. Alors, on objectera que bien souvent, c'est parce que de telles remarques sont faites sans tact, sans compassion et sans amour. Ou alors, on affirmera que c'est parce qu'elles nous font culpabiliser et que la culpabilité, on le sait, c'est rarement productif. Oui, c'est peut-être vrai. Mais j'ai quand même un peu l'impression qu'on aimerait bien jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous voyez ce que je veux dire? Et que finalement, l'argument du manque de tact vécu peut-être un jour, oui, et bien pratique aujourd'hui, pour ne plus avoir à nous remettre en question. Ou encore, que l'étendard de la culpabilité que l'on brandit si vite est bien commode, au fond, pour ne pas avoir à être bousculé dans nos incohérences. Mais le problème, quand même, avec de telles attitudes de refus, quelque part, d'être dévoilé dans nos péchés ou nos manquements, pour une raison ou une autre. Le problème, c'est qu'à force de ne plus être ainsi remis en question, eh bien, on va finir par croire que nous sommes devenus des gens suffisamment bien. Et cela, chers amis, ce serait vraiment dangereux. Pourquoi? Eh bien, parce que cela fera de nous, ni plus ni moins, des pharisiens. Oui, des pharisiens qui n'acceptent plus qu'on mette leurs failles en évidence. Mais on connaît l'opinion que Jésus avait et a toujours de tels comportements. Non, soyons-en sûrs, un tel état d'esprit, ça ne peut pas être l'Église telle que Dieu la veut et l'aime. C'est tout au plus un club de loisirs, où chacun vient pour se faire du bien et repart ensuite comme il est venu. Et c'est un vrai risque, je crois. Mais ce n'est pas l'Église. Non, répétons-le, l'Église n'est pas un club de gens bien qui discutent de tout et de rien et qui passent du bon temps ensemble. Non. Mais c'est une communauté de pécheurs pardonnés qui veillent les uns sur les autres afin de combattre ensemble ce péché qui demeure encore en nous tous. Et donc, oui, choisir de faire partie d'une église locale, c'est accepter, en fait, de ne plus jamais pouvoir repartir comme on est venu. C'est accepter de ne plus être libre de vivre comme on l'entend, mais d'abdiquer volontairement une partie de notre liberté au regard de nos frères et sœurs. J'accepte qu'il veille sur ma vie. Avec douceur et patience, bien sûr, oui, mais j'accepte qu'il le fasse et qu'il continue de le faire. J'accepte qu'il soit en souci de mon état spirituel. Et j'accepte donc aussi, à cause de cela, qu'ils interviennent dans mes incohérences et dans mes choix de vie discutables. Ceci est sans doute en complet décalage, on est d'accord, avec l'esprit individualiste qui parcourt notre société et qui nous influence tellement. Mais c'est pourtant l'appel que nous lance l'Écriture quand elle nous demande de veiller les uns sur les autres. D'ailleurs, un peu plus loin dans cette lettre aux Hébreux, l'auteur précise ces lieux justement où notre veille doit s'appliquer envers notre frère ou notre sœur. Lisons ce passage ensemble. Veillez, nous est-il dit. Mais à quoi ? Eh bien, à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Et à ce qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Quatre lieux, donc, vous l'avez noté. Reprenons-les. Il nous faut veiller d'abord à ce que chacun de nous se cramponne dans sa vie à la grâce de Dieu. Il nous faut veiller ensuite à la qualité de nos relations mutuelles, à ce qu'aucune sorte de rancœur ne vienne s'installer chez quiconque parmi nous. Il nous faut veiller encore à la moralité de nos vies respectives, oui, à tous les niveaux, argent, sexualité, maîtrise de soi et j'en passe, et une moralité conforme à l'Écriture. Et il nous faut veiller enfin, last but not least, à ce que personne ne méprise les choses saintes, c'est-à-dire à ce que personne parmi nous ne néglige la priorité à donner à Dieu et à son royaume dans sa vie et son quotidien. C'est un champ très large, nous le voyons. Mais oui, pour toutes ces choses, la Bible nous dit explicitement que nous avons des comptes à rendre les uns aux autres. Et que, comme nous l'avons lu, la solution qui consiste, quand nous n'avons pas envie de les rendre, ces comptes, à délaisser nos réunions, ne pourra jamais être une option valable. Au contraire, l'Écriture nous invite à demeurer ensemble, pour pouvoir veiller ensemble, afin de grandir ensemble. Grandir petit à petit, bien sûr, encore une fois. La veille ne doit jamais devenir un rouleau compresseur. Mais grandir quand même. Mais alors du coup, dernière question peut-être sur ce point. Veiller, d'accord, on l'a compris. Mais maintenant, comment, concrètement ? Car on se doute qu'il ne s'agit pas non plus à la sortie du culte d'aller faire le tour des personnes autour de nous pour leur faire passer notre interrogatoire en quatre points. Non, de telles choses, bien entendu, doivent se construire plus profondément et plus intimement aussi. Mais alors comment ? Eh bien, je crois personnellement que pour cela, chacun de nous devrait avoir au moins un frère ou une sœur dans la communauté, qu'il inviterait explicitement à veiller sur sa foi. Oui, choisissons quelqu'un parmi nous pour lui donner le droit de s'inquiéter de notre croissance spirituelle. pour lui donner le droit de voir si nous ne passons pas à côté de la grâce de Dieu, pour lui donner le droit de nous demander si nous ne sommes pas en froid avec un autre dans l'Église, pour lui donner le droit de vérifier si nous ne sommes pas tombés dans l'immoralité dans un domaine particulier, ou bien encore pour lui donner le droit de voir si nous ne délaissons pas la priorité de Dieu dans nos vies. Oui, donnons-lui le droit de creuser toutes ces choses avec nous, sans nous cacher. Et plus encore, donnons-lui le droit de nous pousser à changer. Je suis vraiment convaincu que nous devrions tous faire cela sans tarder. Chercher un partenaire privilégié pour nous accompagner dans notre santé spirituelle. Et en faire une priorité de cette santé, plus que notre santé physique même, puisque Dieu en fait la priorité. Alors oui, chers amis, faisons-le vraiment. C'est trop important. Et surtout, ne comptons pas uniquement sur notre pasteur pour accomplir ce travail de veille, car c'est à nous tous que Dieu ordonne de veiller les uns sur les autres. Oui, prenons sincèrement à cœur l'état spirituel de nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, nous poursuivons notre réflexion, il y a également une autre manière de faire cela. C'est notre deuxième point. Nous le découvrons dans l'épître de Jacques. Confessez vos péchés les uns aux autres. Là, on est encore, me semble-t-il, en plein dans le thème de veiller qu'on vient d'aborder et qui est répété ici, avec des mots forts. Confessez vos péchés les uns aux autres, mais aussi, en parallèle de cela, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Voici notre deuxième appel pour ce matin. Priez les uns pour les autres. Pourquoi ? Pourquoi faire cela ? Eh bien, simplement d'abord, pourrait-on dire, parce que Dieu nous le commande de manière explicite. Samuel disait, « En ce qui me concerne, que l'Éternel me garde de commettre une faute contre lui en cessant de prier pour vous. » Un verset que je trouve intéressant à méditer. Prier parce que Dieu nous le demande, mais aussi prier parce qu'on l'a lu, c'est efficace, parce que ça change vraiment les choses et les vies. Encore ceci, faut-il le croire, bien sûr. Mais je pense que nous pouvons le croire, puisque c'est Dieu lui-même qui nous le dit. Oui, la prière pour les autres est une action vitale, soyons-en convaincus. Mais alors, une fois ce fait de l'importance de la prière établi, deux autres questions me semblent surgir ici. Pour qui et pour quoi prier concrètement? Pour qui tout d'abord? En deux mots. Eh bien, dans une communauté qui grandit, je me dis qu'il sera difficile de prier assidûment pour tout le monde. Aussi, l'évidence nous le montre, il va peut-être nous falloir choisir quelques personnes. Une, trois, cinq, dix, vingt, tout dépendra après de notre habitude et de notre capacité de prière. Des choses qui se travaillent aussi d'ailleurs. Mais il nous faut choisir certains et ensuite nous engager vraiment pour eux, qu'ils le sachent ou pas. Il nous faut les prendre vraiment à cœur. Il nous faut développer, je dirais, un esprit de prière pour ces personnes, c'est-à-dire les garder constamment dans un coin de notre tête et les présenter encore et encore devant Dieu. Quelle bénédiction en retirerions-nous si nous faisions tout cela? Une communauté où l'on prie constamment les uns pour les autres. Et où l'on prie en plus conformément à ce que nous voyons dans l'Écriture. C'est notre deuxième question. Pour quoi prier? C'est-à-dire, Pour quel sujet ? Personnellement, j'ai la sensation que bien souvent, nos prières sont consacrées aux besoins des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous prions pour nos métiers ou nos foyers respectifs, pour que tout se passe au mieux. Nous prions pour ceux qui nous causent du tracas dans nos vies, pour nos problèmes. Nous prions pour nos santé, bien évidemment. Et ce n'est pas un reproche, hein, car de telles prières sont bien sûr tout à fait légitimes et elles doivent avoir toute leur place. Parce qu'elles sont tout simplement une manifestation de notre amour les uns pour les autres et de notre désir du bien de l'autre. Mais néanmoins, nous sommes obligés de constater que dans la Bible, ce n'est quand même pas ce genre de prière qui semble avoir la primeur. Elles ont leur place, oui, mais plutôt, je dirais, comme une deuxième vague. Car les prières bibliques pour l'autre, dans le Nouveau Testament en particulier, tournent en fait toujours plutôt autour de deux autres sujets prioritaires. Et je trouve que c'est un point vraiment intéressant à relever. Les deux sujets d'intercession qui reviennent constamment dans l'Écriture, ce sont les deux suivants. Tout d'abord, c'est la reconnaissance pour nos frères et sœurs et pour ce que Dieu a accompli dans leur vie. Ce point saute aux yeux quand on détaille les prières de Paul, par exemple. Faisons l'inventaire pour nous en convaincre. Regardez avec moi. Aux Romains, il dit « Tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. » Aux Corinthiens, il dit « Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Aux Éphésiens, « Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. » Aux Philippiens, « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance. » Chaque fois que je pense à vous, je prie pour vous tous en toute occasion et c'est toujours avec joie que je le fais. Aux Colossiens, nous exprimons constamment à Dieu notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Aux Thessaloniciens, nous exprimons constamment notre reconnaissance à Dieu au sujet de vous tous lorsque, dans nos prières, nous faisons mention de vous. Nous nous rappelons sans cesse devant Dieu notre Père, votre foi agissante, votre amour actif et votre ferme espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la deuxième lettre qu'il leur écrit, nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Je trouve ce panorama tellement magnifique. Un flot de prières pour exprimer ma reconnaissance à Dieu au sujet de mon frère ou de ma sœur. Et pas juste parce qu'il a été reçu à son examen ou que son état de santé s'améliore. Pour ça aussi, bien sûr. Mais également, et surtout même, nous l'avons lu, pour la grâce qu'il a reçue. Pour son amour qui agit. Pour son espérance qui grandit. Pour sa foi qui progresse. Paul dit un grand merci à Dieu pour tout cela. N'y aurait-il pas ici un exemple à suivre pour nous tous ? Oui, et si chacune de nos prières commençait par la reconnaissance pour la foi de celui qui est à côté de moi ? Cela nous donnerait un tout autre regard, en tout cas, sur notre frère ou notre sœur qui est en route, comme nous, à la suite du Christ. Et puis ensuite, le deuxième sujet de prière qui revient tout le temps, c'est simplement, en fait, pour la continuité de cette œuvre en chacun. Oui, nous sommes invités à intercéder de toute notre force pour la progression des uns et des autres dans la foi, l'espérance et l'amour. Et on entre vraiment ici, me semble-t-il, en résonance avec ce qu'on disait dans la première partie, avec cette volonté de veiller sur l'état spirituel de l'autre. Je me mets en souci de cela. Et du coup, j'en fais aussi le cœur de mes prières. Nous lisons juste deux exemples de ce type de prière d'intercession. Dans Éphésiens, je demande que Dieu illumine votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Il y a un autre texte dans Philippiens. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Ainsi vous serez pur et irréprochable au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Il me semble qu'on a tout dans ces deux textes. Une prière d'abord pour mon frère, afin qu'il connaisse mieux son Dieu et qu'il comprenne mieux toute la grandeur de ce que Dieu tient en réserve pour lui. Et une autre prière ensuite, pour que, en réponse à cela, il progresse dans l'amour et dans les œuvres justes, c'est-à-dire simplement dans la ressemblance à Jésus. Oui, connaître Jésus encore mieux et ressembler à Jésus encore plus. Voilà ce qui devrait être l'objet de toutes nos prières pour nos frères et sœurs dans la foi. Et voici donc en tout cas pour ces deux points. Veillez les uns sur les autres et priez les uns pour les autres. Veillez et priez pour eux comme, en fait, Jésus l'a fait pour nous et comme il le fait encore. D'ailleurs, à ce sujet, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup contempler la façon dont Jésus se préoccupait, justement, des siens sur terre. Je pense à Pierre, notamment. Oui, pendant les 3 années qu'ils ont passées ensemble, on voit vraiment dans les évangiles comment Jésus se mettait en souci pour Pierre. Il veillait sur lui, il l'encourageait, il le reprenait si besoin. Et puis, il s'inquiétait de son âme et il priait pour lui. Et j'aime en particulier ce qu'il lui dit juste quelques instants avant son arrestation. « Simon, Simon, dit Jésus, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Dans cette parole, je trouve qu'on ressent tellement bien cette veille constante de Jésus. « Fais attention, mon frère, lui dit-il. » Cette préoccupation constante de Jésus et cette prière constante de Jésus pour Simon-Pierre. Puissions-nous tous lui ressembler et partager ces mêmes sentiments les uns pour les autres. J'aimerais terminer notre réflexion ce matin par une petite illustration. Car au fond, dans cette histoire, j'ai l'impression que nous sommes tous un peu, en fait, comme des petits jardiniers. Ceci pourrait être notre image mémoire pour notre thème aujourd'hui. Pourquoi cette idée de jardinier ? Eh bien, parce que la terre est bien vaste, trop vaste pour nous. Mais par contre, un petit bout de cette terre, à notre taille, nous a été confié. Et quelques fleurs ont été plantées là, sur ce petit bout de terre. Notre famille, bien sûr, mais également donc nos frères et sœurs en Christ. Quelques-uns d'entre eux, en tout cas. Prendre soin de ces fleurs. C'est-à-dire veiller sur elles et prier pour elles. Pour qu'elles grandissent en Dieu. Pour qu'elles s'épanouissent en Dieu. Pour qu'elles fleurissent, tout simplement. Prendre soin de ces fleurs, voici ce qui nous est demandé dans la vie. Alors, approche. Oui, approche, petit jardinier. Car ici-bas, ces fleurs te sont confiées. Toutes spéciales, chacune à sa beauté. Seule et unique aux mains qui l'ont créée. Viens, élargis l'espace de tes piquets. Et à leur éclat, sois tout consacré. Donne ton temps, ton cœur et tes baisers. Offre tes larmes comme un doux engrais. Et puis surtout, n'oublie pas, puise ta force dans le grand jardinier. Viens à sa source respirer, t'inspirer. Viens te nourrir de toutes ses pensées et ton âme alors pourra déborder. Que Dieu nous fasse la grâce d'être trouvés par lui comme ces petits jardiniers fidèles qui veillent et qui prient pour leurs frères et sœurs. Et que toute la gloire lui soit rendue. Amen.